Bonjour, bienvenue dans les journaux des rencontres des cinémas d'Europe. Fréquence 7 a déménagé et se trouve maintenant aussi dans la salle 103 du centre Le Bourneau. C'est le studio Claude Lost aujourd'hui au paradis des cinéphiles. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce numéro des journaux des rencontres des cinémas d'Europe le service culturel de la ville d'Aumenas, la personne d'Armand Sossac. Bonjour Armand.
Et bonjour.
Et puis également, naturellement, la Maison de l'Image, représentée par Jérôme Gouin. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Le docteur Faust de l'image, qui se livre en quête de l'absolu, a des expériences un petit peu suspectes et pas toujours très claires quand il ne vient pas les expliquer aux impromptus. Voilà. Et puis Jade, étudiante en première, spécialiste des sciences économiques et sociales, de la littérature, des humanités, de la philosophie et puis surtout du cinéma, avec monsieur Christophe Laporte. Bonjour Jade Navarro.
Bonjour.
Voilà. Nous sommes ici pour parler du jury des jeunes des rencontres des cinémas d'Europe. Chaque année, des jeunes se rassemblent durant un week-end. Je crois que c'était en octobre cette année.
C'était en septembre, un petit peu tôt cette année. Ouais.
Un petit peu tôt, septembre. Autour de 4 films, je les cite comme ça rapidement, Veni Vidi Vici, Girls Pictures, Flow et puis Le Royaume. Ce sont les 4 films qui étaient en compétition. J'aime pas trop cette définition-là.
En lice.
En lice, voilà. en coprésence, voilà. Pour susciter des commentaires autour des films, d'une part, et d'autre part, autour de la responsabilité qu'il y a à les présenter au public. Il y a quasiment un travail d'exploitant et de distributeur derrière.
De programmateur, en tout cas,
comme Cathy Géry, par exemple, qui fait la programmation des rencontres des cinémas d'Europe. Ça donne lieu, j'imagine, je n'y étais pas, mais à des échanges assez riches. Jade, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, c'était très intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde aussi, les différentes lectures de chaque film.
Vous êtes 16, je crois, dans le jury.
Je crois, oui.
Quelque chose comme
c'était ça.
C'était ça. Donc c'est un nombre conséquent. Pour ma part, vieux prof que je suis, j'ai assisté à des phases assez importantes du prix Goncourt du lycéen. Et effectivement, comme professeur, on est parfois un peu dépité parce qu'on entend rarement les élèves débattre aussi librement et aussi profondément que lors de ces débats. On aimerait bien pouvoir parfois importer ces débats au cœur de la classe. Voilà. Commençons par le commencement. C'est le service culturel de la ville d'Aubenas qui organise maintenant depuis des années au centre Le Bourneau les rencontres pour jeunes 15-25 ans.
Oui, là la définition 15-25 ans est un peu plus récente, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui avait été créé par Jean-Yves Meyer, par notre maire à l'époque où il était adjoint à la culture.
D'accord, c'est ancien.
Ça remonte un peu. Et c'est un très joli dispositif qui permet à des jeunes d'accéder en fait à une exploration, je dirais, artistique, wow, de différents types d'art, en l'occurrence, par exemple le rap, enfin la musique au travers du rap, la danse, l'écriture également, il y a le graphe, etc. Et évidemment, grâce à la Maison de l'Image, le cinéma.
Oui, c'est effectivement, on a de temps en temps comme ça des échos, des rencontres effectivement autour du hip-hop, autour de la musique rock, etc. C'est effectivement, ça paraît en tout cas très enrichissant. J'ai un tout petit peu dépassé l'âge de péremption, la date de péremption pour ma part.
On ne demande pas les cartes d'identité à l'entrée avec un sourire, en passant finement. Ça peut.
Ça ne tombe pas dans l'oreille et dans le casque d'un sourd. Voilà. Très bien. Alors, à la Maison de l'Image aussi, bien sûr, toute une partie de la vocation de la Maison de l'Image est d'initier les jeunes à l'image. Vous pourriez nous faire un panorama, Jérôme ?
Oui, bien sûr. L'idée, c'est de transmettre notre amour pour le cinéma. On pense que c'est vraiment important puisque ça permet d'échanger, ça permet de découvrir. Le cinéma, c'est collectif par essence. On ne fait pas un film tout seul dans son coin. Et c'est des expériences humaines. Là, je parle surtout des ateliers de création qu'on propose, qu'on anime. À chaque fois, c'est une aventure. À chaque fois, c'est quelque chose de différent, puisqu'on conçoit les ateliers de création avec les responsables des groupes qui nous sollicitent, des enseignants, des animateurs de centres sociaux ou d'autres structures socio-éducatives. Alors, on réfléchit ensemble à ce qu'on va proposer aux jeunes ou d'ailleurs tout public. Et l'idée, c'est de se réunir autour d'un projet. Et chacun y trouve sa place. On écoute les autres. On crée ensemble. C'est une opportunité, un espace d'expérience. Pression qui est assez atypique, même si c'est génial maintenant avec CapCut, les jeunes s'emparent du mode d'expression vidéo de façon spontanée.
CapCut, c'est un logiciel ?
C'est une appli qui est présente sur la plupart des téléphones des ados et qui permet de faire des vidéos. Alors, de la vidéo, on n'est pas dans une pratique de création cinématographique au sens classique, mais on est dans la création et dans l'expression par l'image, donc c'est vraiment super. Avec la maison de l'image, on a une orientation qui est plus tournée vers le mode d'expression cinéma, avec de la narration, avec de la construction d'un récit, de façon peut-être un peu plus complexe. Et ça, on le fait en groupe, parce que voilà, travailler ensemble, c'est très riche humainement. Ça, c'est vraiment l'objectif essentiel de nos propositions. Et puis, bien sûr, créer des images ensemble, ça permet de mieux les appréhender, de mieux les apprécier.
Ensuite.
De mieux savoir quels sont le fruit d'un point de vue, que ce n'est pas la réalité. Ça construit l'esprit critique et ça construit le rapport aux images en général.
Complètement, oui. Et d'ailleurs, nous avons reçu dans ce même journal des rencontres Valérie Valero, par exemple, qui est chef décoratrice, qui a fait la déco de Olympe, Une femme dans la Révolution, qui a fait la déco de Maria sur Maria Schneider, Le dernier tango à Paris, et puis également de Jumbo, qui est un film très original, puisqu'une Jeanne tombe amoureuse d'un manège. C'est son droit. Alors, et effectivement, avec Valérie Valero, nous avons évoqué cette dimension collectif, presque entrepreneurial de la création cinématographique. Et j'avoue que dans le cours de notre entretien, elle a réussi à me faire comprendre que bien qu'entrepreneurial, l'entreprise du cinéma restait une création artistique à part entière, c'est-à-dire l'expression à un moment donné d'une vision du monde et qui effectivement par après permet d'avoir sur sa propre vision du monde un recul qui peut être salvateur. Jade, vous-même vous vous destinez peut-être à des professions du cinéma, vous avez déjà une petite idée?
Absolument pas, j'ai pas du tout j'ai beaucoup pensé, enfin pendant longtemps, à ingénieur du son, mais c'est un truc qui m'intéresse plus vraiment, donc enfin ça a l'air très intéressant, mais c'est plus un truc dans lequel j'aimerais me lancer.
Donc recherche d'une autre vocation à l'intérieur de ce milieu-là.
C'est ça.
Oui, on avait effectivement parlé en radio par le passé de l'aspect son qui pouvait être prégnant, mais effectivement on a le temps. On a discuté hier, pas plus tard qu'hier, avec Arnaud Demoigne qui est producteur, réalisateur, scénariste de films d'animation et qui avec qui on a parlé de formation et qui disait effectivement il faut que les jeunes prennent leur temps pour choisir les bonnes formations et pas s'engager dans des choses coûteuses et inutiles ou voilà. Donc effectivement on pourrait peut-être tout doucement revenir quand même au film. Alors, comme je goûte assez peu l'esprit compétition, si on pouvait un petit peu évoquer les trois autres aussi, et peut-être même commencer par ça, je sais pas. Alors, Girl Picture est un film finlandais qui raconte l'histoire de deux jeunes filles qui avancent dans l'existence. Les qualités de ce film, je peux peut-être commencer par Jade, si tu te souviens de ce qui avait peut-être retenu ton attention dans ce film, je ne sais pas.
Oui, j'avais beaucoup aimé parce que c'est un film du coup qui montre bien en fait ce que c'est, ce qui est l'adolescence, tout ça. Parce qu'on sent que ces deux jeunes, elles sont complètement paumées et c'est un peu, je pense, ce qu'on ressent tous. Et enfin voilà, j'avais bien aimé. Après, je sais pas vraiment quoi dire d'autre, parce que ouais. Du coup, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que moi, je déboule là alors que vous êtes rencontrés en septembre. C'est un film dont je parle aussi parce qu'il est encore visible. Ah ben il passe en ce moment. La Irmelie de Marle doit en faire la présentation à midi, mais il sera encore visible samedi 23 à 20h30, si je vois bien,
Bah, Jérôme. Oui, Girl Picture, nous, il avait retenu notre attention parce que c'est une manière qu'on avait trouvé assez subtile d'aborder les questions liées à la sexualité, à la découverte de la sexualité, et avec plutôt de la délicatesse, mais sans concession non plus, quoi. Les choses sont dites, sont exprimées, c'est pas particulièrement dramatique, mais c'est compliqué, tout simplement. Et nous, il nous avait bien plu pour le proposer au jury, et je crois qu'il avait été plutôt bien reçu par la plupart des membres du jury, oui. Avec parfois des petites réticence pour le proposer parce que certains ont trouvé que c'était un thème qui était déjà beaucoup abordé dans le cinéma, oui. Et dans les séries, oui. Et
la question de l'orientation sexuelle, par exemple, il y a un petit crush avec une patineuse,
oui. Voilà, il y avait une petite sensation de déjà-vu, oui. Qui a fait que le film n'a pas été retenu, mais voilà, le film a quand même été plutôt apprécié, je sais pas.
Il me semble qu'il a été apprécié par la plupart des personnes.
Non, mais c'est pour ça que je donne cette orientation à notre entretien, c'est parce que, en particulier l'an dernier, j'étais avec beaucoup d'élèves autour du jury Bouche de l'art, et je suis sûr qu'ils insistaient sur le fait que leur sélection, c'était pas une condamnation des autres, hein, c'était plutôt que, encore une fois, avec cette double, il faut l'intérêt du film, et puis il faut l'intérêt de le présenter.
C'est ça.
La responsabilité de le présenter.
Exactement, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, et les discussions ont porté sur les films, mais d'un point de vue de programmateur. Le film a été effectivement apprécié, mais est-ce que c'est celui-ci qu'il faut mettre en avant? Est-ce que c'est celui-ci qu'il faut soutenir plus que les autres? Eh bien, pour cette raison, du fait d'avoir une thématique assez partagée, voilà, il n'a pas été retenu, mais il n'empêche qu'il est plein de qualités.
Oui. Armand, vous avez eu l'occasion de voir ce film?
Oui, j'ai vu les quatre films. Alors là aussi, il y en a certains dont j'aurais peut-être pas des souvenirs très forts. Oui. Mais ce que je trouvais intéressant dans ce film, justement, c'est que déjà, il déjouait notre... Avec Jérôme, on a dit, bon, pronostic, c'est ce film qui va être élu. Et une fois de plus, ce jury nous a surpris en faisant un choix qui, nous paraissait évident, mais parce que sans doute, on est des vieux cons.
J'osais pas le dire.
Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'on est maintenant aussi dans une culture, il y a le cinéma, mais il y a aussi la série. Et la série, c'est vrai que bon, ça développe des idées, des personnages sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons, qui comptent beaucoup le trou, qui racontent beaucoup de choses. Et j'ai senti, je crois, je me rappelle sur ce film, une sorte de frustration, parce que le cinéma en 1h30 ou 2h laisse une part d'inconnu, de sujets non pas non aboutis, mais amorcés, qui permettent la construction, en effet, du personnage, du récit et de ce qu'on ressent, mais... Il y a aussi une frustration maintenant, je crois, de par le fait d'avoir des séries qui explorent vraiment tout jusqu'au bout, une forme de frustration parfois, peut-être des jeunes justement, de ne pas voir certains sujets abordés dans sa totalité, en effet des sous-sujets intéressants qui construisent le scénario. Mais
ouais, j'entends. Et c'est la première fois que j'entends cette promotion-là de la série. C'est intéressant parce qu'effectivement, en particulier au niveau du creusement d'un personnage, la série est intéressante parce qu'on le voit éventuellement évoluer sur un an, deux ans ou beaucoup plus éventuellement. Un autre film qui était évoqué par les jeunes du jury Bouche de l'art, Veni, Vidi, Vici. Un film de Julia Niemann que je ne connais pas du tout. Jade, est-ce que tu as là des souvenirs ou tu passes ton tour?
Oui, je me rappelle très bien de ce film parce qu'il m'a marqué actuellement là. Après y avoir beaucoup réfléchi, je ne serais toujours pas capable de vous dire si j'ai aimé ou pas.
Ah oui.
Enfin, en fait, il est très très particulier. Si je pouvais faire un tout petit résumé, c'est l'histoire d'un père de famille qui a une passion, c'est la chasse. sauf qu'il chasse des humains. Voilà, en gros, c'est, en gros, c'est un peu ça l'histoire. Et en fait, il a beaucoup d'argent, donc ça, il se sort de toutes les situations un peu compliquées.
Oui, d'accord, mais ça fait penser au film de l'année dernière, je ne sais plus qui doit mourir, là.
Vincent doit mourir.
Vincent doit mourir, qui avait été, si je me souviens bien, écarté par le jury Bouche de là.
C'est
celui qui avait... D'accord, donc vous n'avez pas voulu faire rebelote. Ce film, donc, Veni Vidi Vici, va repasser au navire à 16h30 cet après-midi. Il repasse vendredi 22, il repasse samedi 23, mais vous avez tous le programme. Toi, Jérôme, ce film ?
Bah oui, on en ressort un peu déstabilisé. C'est, comme disent les jeunes, malaisant.
Malaisant, oui.
Et alors, il y a une photo qui est magnifique. C'est un travail extraordinaire au niveau de la forme. Moi, je l'ai reçu comme une sorte de fable où le réel est amplifié, exagéré. Et ça m'a raconté l'histoire de l'ordre établi, l'ordre social établi entre les très riches.
Oui.
Et le peuple. Et dans ce film, il y a une certaine complicité, en tout cas une certaine complaisance de la part du peuple à faire en sorte que les choses restent telles qu'elles sont, alors qu'elles sont injustes.
C'est le discours de la servitude volontaire, hein, finalement.
Bah, c'est ça.
C'est un peu ça. Hein. Ouais. Et effectivement, dans nos sociétés ultra-libérales, rebondissement politique, les différences sociales et économiques, surtout budgétaires, enfin financières, on va dire, sont de plus en plus grandes, et elles confinent à cette création tout à fait irrationnelle de deux mondes différents entre celui des très très riches et celui des très très pauvres, qui conduisent effectivement à cette espèce de folie que vous m'apprenez là, où on chasse des humains. Oui, ça fait froid dans le dos, et ça paraît à la limite même pas tout à fait complètement irréaliste, quoi. C'est ça qui est fou.
C'est l'impunité,
oui. Les ultra riches continuent de construire un monde qui court quand même à la catastrophe avec les changements climatiques, on le sait, et pourtant ça continue. Moi, c'est ce que le film m'a raconté, vraiment. Au-delà de... Je crois que c'est pas un film à prendre au premier degré,
mais
justement, c'est une métaphore que se permettent de faire les puissants, et comment on réagit, nous, petit peuple, par rapport à tout ça.
À cette impunité, donc, c'est le mot que vous avez, qui vous est venu, Armand.
Oui, c'est le... J'ai du mal aussi avec ce film. Enfin, j'ai du mal à déterminer si je l'aime ou pas. Je crois que je l'aime pas, mais je le conseillerais parce que c'est une vraie œuvre d'art. Il y a un vrai parti pris. Moi, tout de suite, j'ai vu une construction évidemment à la Kubrick. Pour moi, c'est l'anti 2001. C'est-à-dire, c'est 2001, c'est un peu l'évolution de l'humanité vers autre chose. Alors que celui-ci, c'est l'évolution de notre humanité aujourd'hui vers quelque chose d'assez terrible. Pas vers le surhomme. Mais vers un aspect encore plus abject de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est construit en trois parties, enfin on voit toujours tout ça. Et je ne peux m'empêcher de penser à une anecdote sur le tournage de Callas Forever. J'avais eu la chance de travailler sur ce film pour Zeffirelli. Et on demande évidemment pour des autorisations de tournage pour cela. Et à un moment, on devait tourner Avenue Foch devant l'appartement de la Callas. D'abord, le régisseur qui était chargé des repérages s'est fait mettre dehors sous une pluie battante par le propriétaire de façon assez exécrable.
Avenue Foch, quand même, pourquoi pas Parc Avenue, tant qu'on y est.
Oui, mais et quand je suis allé demander les autorisations à la préfecture de police de Paris, et je m'entendais très bien avec cette dame qui s'appelait le commandant Barnaud, qui me donnait beaucoup, beaucoup de souplesse. Et elle me dit,
une forme d'impunité, non, quand même pas.
Non, mais une souplesse. Disons que je pouvais des fois être un peu hors délai, etc. Ce qui m'arrangeait bien, c'est quand on me connaît. Et là, elle me dit, mais là, je peux te signer tous les papiers que tu veux. Les gens qui sont là-bas ont le bras tellement long, même avec nos autorisations.
Ah, d'accord, oui.
Un coup de fil, c'est des quarts de CRS qui déboulent et vous êtes viré manu militari.
D'accord.
Et elle m'a dit, mot pour mot, dis-toi bien Armand, que nous, les petits hommes bleus, on est tolérés parce qu'ils ont besoin de nous. Vous, là, les artistes, vous n'êtes même pas des Romanichel.
D'accord. Donc, ça mérite d'être clair.
Donc c'était très très clair. Et ça voulait dire que malgré les papiers de la préfecture de police tamponnés, de la mairie de l'arrondissement tamponné, etc., ces gens-là pouvaient nous faire dégager Manu Militari.
Bon, ben, c'est un autre aspect de l'archipélisation de la société, je crois.
Oui, mais ça correspond en effet à quelque part à ce côté des surpuissants, du surpouvoir et de choses qu'on... Voilà, c'est une fois où j'étais confronté à ça. Ouais, et oui. C'est un peu... Voilà.
Oui, ça doit être un petit peu étonnant quand même.
Ouais,
on se croirait un petit peu dans... Je sais pas, moi ça m'évoque Rio de Janeiro, mais je sais pas pourquoi, mais vraiment. Voilà. Ouais. Bon, alors, on va continuer à évoquer les films, puisque finalement, moi en tout cas, ça me donne très envie de les voir. Donc comme c'est quand même un petit peu début des rencontres des cinémas d'Europe de voir des films. Alors le suivant, alors là... Je l'ai vu pas plus tard qu'hier matin. Il s'agit de Flo, c'est de l'animation, du dessin animé. Très très beau, une esthétique folle, en particulier justement les décors, les milieux urbains anciens abandonnés, c'est extraordinaire. Pour résumer le film en forme de pitch de lancement, comme ça, donc il n'y a que des animaux domestiques et sauvages dans un milieu qui a visiblement été occupé par des humains, un déluge, une montée des eaux et l'aventure de ces animaux qui restent abandonnés à eux-mêmes d'une certaine manière. J'en dis pas plus, je pense que ça suffit. Comment vous, les jeunes, vous avez reçu ce film d'animation ?
Alors, bonne question. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, c'était très très bien. J'étais très impliquée dans le film, des fois. Mais je pense qu'en plus court, ça aurait été un peu mieux, parce qu'il y avait certaines longueurs.
Ouais.
Mais j'ai quand même beaucoup aimé.
Le chat tombe un peu souvent à l'eau, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà.
C'est ça, la première fois, on se dit « Oh non, petit chat, remonte !» Et puis au bout d'un moment, on se dit « Wow, il va y arriver tout seul !»
Mais je crois que c'est un titre qui a été donné en français à ce film, qui n'a plus peur de l'eau, je crois.
Oui, c'est ça, le chat qui n'a plus peur de l'eau.
Le chat qui n'a plus peur de l'eau. Ouais, je trouve que ça écrase quand même un petit peu le sujet, parce que... Mais effectivement, j'ai eu ce sentiment aussi qu'il tombait un peu souvent à l'eau. Mais pour apprendre, il faut tomber souvent. Ah.
Et oui, c'est ça, oui, parce qu'après il s'est nagé.
Après il s'est nagé, voilà. Et bien, voilà. Les lémuriens sont marrants aussi.
Oui, oui.
Ils apprennent à réfléchir visiblement dans le miroir. Donc
oui,
ça c'est quand même.
Oui,
c'est
avec
quand même,
le miroir.
Ouais, c'est quand même pas rien. Jérôme, c'était un petit clin d'œil quand même au cinéma d'animation aussi.
Oui, l'idée c'était de rendre les choses difficiles pour notre jury. Oui. Donc quatre films incomparables, oui. L'un par rapport à l'autre, ça attise les discussions, les débats, les réflexions, les hésitations. Et voilà, c'est pour ça que c'était intéressant de mettre un film d'animation, surtout avec une forme assez particulière. Il n'y a pas de dialogue, par exemple, dans le film. Hein. C'est les animaux qui ne parlent pas. Hein. Il n'y a pas d'anthropomorphisme, en tout cas, par rapport à ce niveau-là.
Ah, pas à ce niveau-là, oui.
Et voilà, c'était pour corser un petit peu les difficultés. Le film a été, là aussi, apprécié pour sa forme. Enfin, ce côté-là, pas de dialogue, je pense que ça a été vraiment un bon point. Ce qui a peut-être un petit peu gêné la plupart des jurés, c'était aussi... Le niveau graphique, parce que on est un peu dans la ligne claire avec des personnages simplistes et des décors très 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 précis, très très beaux.
Le contraste là.
Ouais, le contraste et puis le choix esthétique des personnages qui sont pour le coup eux très
simplifiés.
Ouais, très simplifiés. Ouais, ouais. C'est, un côté c'est... Minecraft un petit peu.
Déborah là qui fait les dessins pour les carnets des rencontres que chacun peut se procurer, il y en a un tous les deux jours qui sort. Déborah, donc, avec qui j'ai vu le film, me soulignait la même chose, ce contraste entre les personnages et le décor, mais elle l'avait apprécié justement. Oui. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'on peut voir le même film et pas le voir tout à fait de la même façon. Voilà, un film que moi j'ai apprécié en particulier pour son fond, un peu philosophique justement sur la somme d'intelligence qui se retrouve pour bâtir un avenir. J'ai trouvé ça assez intéressant. Armand aussi, le cinéma d'animation, ça vous parle ?
Oui, mais bon, c'est vrai que je l'évite un peu depuis quelques années. Ayant une fille qui a maintenant 19 ans, je me suis tapé pas mal de dessins animés pendant quelques années. Et je crois que j'en étais arrivé un peu de saturation, d'où mon plaisir d'ailleurs de découvrir dans ce cadre-là.
Ça a changé quand même. Hein.
Ce film qui... mais moi, c'était pas loin d'être un de mes préférés, en fait, même si en effet, il y a quelques longueurs, etc. Mais je comprends aussi comment dire, le choix du jury d'écarter un peu ce film d'animation, non seulement peut-être par la forme, mais aussi parce qu'il y a vraiment quand même une richesse très forte dans les trois autres. Il y a des sujets abordés de façon peut-être plus adulte, plus évidente, plus concrète, et leur travail de réflexion, leur plaisir, je dirais, à réfléchir, peut-être avait beaucoup plus de résonance sur les trois autres films que sur ce film d'animation, qui a quand même en effet des sujets importants, qui soulèvent des choses importantes. Mais bon, on est face à quelque chose d'un peu plus quand même enfantin malgré tout. Je pense que c'est là où l'intérêt de la réflexion sur les autres films a sans doute naturellement écarté la réflexion sur celui-là. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, Jade.
Oui, j'ai l'impression que ça s'est fait aussi comme ça, parce que c'est vrai que on a fait par élimination et c'est vraiment le premier qui a été écarté. Enfin, on n'a même pas commencé à débattre dessus, il me semble que... Que directement on a dit c'est un peu enfant
Voilà. Je crois que moi je l'ai beaucoup apprécié, et précisément je pense pour cette raison-là, le fait d'avoir l'impression d'être replongé dans une forme d'enfance et d'innocence à partir de laquelle je peux repenser un certain nombre de dimensions de la nature, de l'animalité, de l'humanité. Peut-être que c'est un film pour philosophe, en fait, c'est-à-dire pour enfant qui cherche des abstractions, justement. Donc, je n'arrive pas à voir s'il est encore projeté. Il me semble que si, en tout état de cause, j'imagine qu'il sera programmé au navire après les rencontres, probablement. En tous les cas, il le mérite. Et moi, je le conseille. On en arrive à celui... Last but not least, puisqu'il a été porté au nu de la compétition. Le Royaume. Le Royaume de Monsieur Colonna. Le nom n'est pas surprenant, en l'occurrence, puisque ça se passe en Corse. Le Royaume, c'est l'île de Corse, où je disais, moi, en forme de pitch, que le Royaume est une île où il y a plus de princes que de principautés, donc ça coûte cher de garder le pouvoir. C'est un peu le truc. Et puis, bon, le héros du film est un mafieux qui apparemment travaille dans la drogue, principalement. Et puis, il a une fille, qui est donc une princesse, finalement, et de la mafia. Et alors ce film, je ne suis pas très surpris quand même qu'il ait eu du succès auprès de vous, mais Jade, que diriez-vous, de ce qui vous a particulièrement marqué dans ce film ?
Moi j'ai beaucoup aimé surtout la relation du coup entre le père et la fille, enfin, je trouvais que c'était une très belle relation, enfin, parce que la fille elle veut toujours aider son père dans les choses autour de la mafia dans laquelle il se lance.
C'est une fiction ?
Oui. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je saurais pas, là, comme ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'arrive pas vraiment à me le remémorer complètement. Mais,
Oui, mais il y a cette force-là du rapport père-fille.
Oui, bien sûr. C'est ça.
Et pour avoir deux filles, oui, effectivement, c'est un rapport qui est nécessairement très, très fort. Mmh. Voilà, oui. Donc, là, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que la violence soit montrée en étant à minima jugée. Mais montré sans ostentation. Donc là, il y a quelque chose, je trouve, il y a une réussite de parcours de crête, là, de la part du réalisateur et des acteurs qui sont incroyables, apparaît-il pas des professionnels. Jérôme, qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est un film qui est assez particulier, les acteurs sont pas des pros. C'est assez surprenant, hein, parce qu'il parle avec un phrasé corse qui peut déstabiliser un peu. C'est avant tout l'histoire d'une relation entre un père et sa fille. Tu évoquais le statut de... c'est un trafic de drogue, mais c'est surtout un père et sa fille. C'est un chef de clan, mais c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est vraiment un père et sa fille, puisque le père est absent, il se planque, il la retrouve, elle a 16 ans, et comment il noue une relation d'amour entre un père et sa fille, réciproquement, dans ce contexte-là où il faut se cacher, il faut fuir, il y a de la violence, et il y a une sorte de fatalité qui est exprimée dans le film. Le Royaume, c'est aussi la transmission de génération en génération du pouvoir. Et comme tu le disais, effectivement, y a cette violence-là, puisque c'est pas facile d'être en concurrence avec les autres clans. Ouais. Donc c'est une scène de théâtre avec ce contexte-là. Ouais. Mais le sujet, c'est une île. Les paysages sont magnifiques. On voit dans leur fuite à quel point ils... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont implicites par rapport... cette progression dans la narration, dans l'écriture, et en grattant un petit peu, il y a beaucoup de choses. On trouve du sens, à commencer par le titre, tout s'imbrique dans l'histoire qui nous est racontée, en faisant attention à une multitude de petits détails qui font sens et qui contribuent à la narration, à la construction de la narration et des nombreuses émotions qui jalonnent ce film.
Je vais être obligé, Armand, je suis désolé, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur ce film.
Ça va très bien comme ça.
Ça va très bien comme ça, mais on me fait des signes. Je ne suis pas maître du temps, évidemment que non. Il faut que nous nous laissions, nous parlions donc du jury Bouche de l'art du cinéma des rencontres des cinémas d'Europe. Depuis le studio Claude Loss, salle 103 du centre Le Bourneau, mais nous ne nous quittons pas sans prendre au passage un conseil littéraire de Julien Poujade qui nous offre donc sa pastille du jour. Ciao, ciao.
Et on retrouve Julien pour l'instant lecture avec un coup de cœur de la librairie des Rencontres. Salut Julien.
Bonjour.
Alors avec quoi tu es venu ?
Eh bien je suis venu avec un livre. Alors comme c'est la première, on va commencer par faire un honneur, on va dire, à la Finlande, puisque c'est d'actualité. J'ai croisé dans les couloirs Irmeli Desbarles qui va animer, on va dire, ce focus sur la Finlande, ce voyage en Finlande. Et donc je suis venu avec... Alors il y a quelques livres... Un certain nombre, il y a toute une sélection de livres qui sont consacrés à la Finlande, à la librairie des Rencontres, mais je vais vous en parler d'un en particulier. C'est un livre d'Olivier Truc qui s'appelle Le dernier lapon. Alors c'est un petit poche, donc c'est assez sympathique. Ça, c'est un polar, et ces polars d'Olivier Truc, c'est des petits bijoux. Moi je trouve, à la fois pour découvrir, on va dire, l'univers de la Laponie d'aujourd'hui, quoi. On est vraiment pas dans le conte, on est dans une réalité actuelle, mais on est quand même dans le conte, puisque effectivement on est dans la culture lapone, et qui fait la part belle, au voyage, aux croyances, on va dire, assez fantastiques sur la neige, la glace, les animaux. Il y a plein de choses comme ça, et où se mêle à la fois, on va dire, ce contact à la nature presque magique et une réalité, on va dire, contemporaine, où on voit aussi l'exploitation qui peut être de ces régions-là. Donc c'est à la fois par les pays, hein, c'est la Laponie, c'est quand même à cheval sur plusieurs pays, hein. On l'a mis dans le voyage en Finlande, mais on va voyager un peu en Russie, un peu en Suède, voilà. Il y a plusieurs pays où sont les lapons. Et c'est assez passionnant de le découvrir dans ce roman-là, enfin dans ces polars-là. Et en plus, effectivement, il sait maintenir un suspense, donc c'est assez haletant. Et il y en a toute une série, je crois qu'il y en a 3 ou 4. On les a quasiment tous.
Ok, c'est ce que j'allais te demander, si Olivier Truc avait écrit d'autres ouvrages sur la Laponie.
Et ben alors oui, et on trouve à chaque fois son héros récurrent qui est toujours là, et il y a le Détroit du Loup, là je vous ai mis le dernier lapon, enfin voilà, il y en a toute une série. Et alors c'est intéressant parce qu'il est très il connaît très bien la société de là-bas, puisqu'il est à la fois il est aussi le correspondant du Monde dans ces régions-là. Donc du coup, il est très bien documenté, ce monsieur, et il écrit très bien.
Le dernier lapon d'Olivier Turc, qui est à retrouver au bistrot,
au bistrot, alors si vous l'avez acheté avant la librairie, vous pouvez aller le boire au bistrot, c'est tout à fait possible.
Pour se réchauffer. Merci beaucoup, Julien.